Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Du grain à moudre d'été, ce soir, la révolte à Hong Kong fait-elle trembler la Chine ? Pas d'essoufflement, la contestation est encore vive à Hong Kong. Des dizaines de milliers de manifestants hier, un peu plus de deux mois après le début du mouvement. Un mouvement qui a compté jusqu'à 2 millions de participants selon les organisateurs, 2 millions sur 7,5 millions d'habitants. Il s'est d'abord construit contre un projet de loi, un texte qui autorisait l'extradition de suspects vers la Chine. Un texte mort selon le mot de Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong. Puis ce mouvement s'est consolidé face aux menaces qui pèsent sur les libertés dans ce petit territoire passé sous contrôle chinois il y a 22 ans, deux décennies pendant lesquelles Pékin a progressivement renforcé son emprise et attaqué la société libérale hongkongaise, deux décennies émaillées déjà de révoltes en 2003 et 2014 notamment. Mais aujourd'hui, la durée, le nombre, l'intensité font de cette contestation un mouvement à part, d'où cette question, la révolte à Hong Kong fait-elle trembler la Chine ? Pour en parler, trois invités. Michel Bonin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine, directeur d'études à l'EHESS et professeur associé à l'Université chinoise de Hong Kong. Chloé Froissart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Rennes 2, plus précisément au sein du département d'études chinoises. Jean-Philippe Béja, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sinologue, politologue, directeur de recherche émérite au CNRS, également chercheur au CERI, le Centre d'études et de recherches internationales.
Nous nous attendons à une réaction de Beijing, mais nous n'avons pas peur. Nous avons pleinement conscience de ce qui s'est passé place Tiananmen. Et je crois que beaucoup d'entre nous sont préparés à l'éventualité d'une intrusion par la police chinoise. Nous savons à quoi tout cela pourrait mener, mais si nous mourons, alors Hong Kong mourra avec nous. Si nous brûlons, Hong Kong brûlera aussi.
Que cette manifestation soit légale ou non, je ne pense pas que ça ait de l'importance. Même si c'était une manifestation légale, comme nous en avons eu tant de fois en juin et en juillet, ça n'empêche pas la police de lancer des bombes lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Donc ça ne fait aucune différence.
Voilà quelques paroles de manifestants hier dans les rues de Hong Kong pour cette nouvelle manifestation à laquelle ont participé des dizaines de milliers de personnes. Manifestation, et on l'entend aussi, hein, émaillée encore une fois par de quelques affrontements. Plusieurs sujets dans cet extrait, dans ce montage sonore et dans cette courte description du mouvement. Il y a d'abord le nombre de manifestants, leur origine, la durée de la contestation. La première manifestation date même de la fin du mois de mars, hein, avant que le rythme ne s'accélère au début du mois de juin. Pourquoi, déjà, première question, pourquoi ce mouvement dure-t-il depuis aussi longtemps, Michel Bonin ?
Ah ben, il dure depuis longtemps parce que le gouvernement ne répond pas aux demandes des manifestants. Donc il ne peut que continuer. Et plus il continue, plus les choses deviennent tendues. Et donc il y a une exaspération. Et puis aussi, le problème, c'est que cette demande des manifestants, elle est existentielle pour Hong Kong. Le projet d'extradition vers la Chine, c'était la fin en fait du système de séparation entre Hong Kong et la Chine. Mm. C'est la garantie. C'était la garantie de d'avoir au moins un système de liberté en Chine et à Hong Kong et de protection personnelle.
Il faut rappeler en quelques mots le système dont bénéficie Hong Kong.
Oui, alors Hong Kong. Donc théoriquement fondé sur l'idée que il fait partie de la Chine, donc l'ancien territoire britannique fait maintenant partie
depuis
de la Chine.
Depuis 1997.
Depuis 1997, mais c'est une région administrative spéciale et qui a un statut notamment juridique entièrement différent de celui de la Chine. Mmh. Et donc c'est une protection, il bénéficie de toutes les protections des pays qui existent dans les pays occidentaux bénéficiant de la common law britannique.
Voilà, hérité de la période coloniale
et
de l'empire, enfin de l'ancien empire britannique. Voilà donc pour ce rappel et cette précision importante, Chloé Froissart, je reviens à la question initiale, pourquoi ça dure aussi depuis longtemps ? En fait, pourquoi autant de détermination chez les manifestants ? manifestants?
Je pense que ce mouvement, c'est, si vous voulez, le second acte d'une bataille qui a été engagée en 2014 avec le mouvement des parapluies et qui s'est soldée par une frustration profonde, puisque ça a été l'excuse pour Pékin pour reprendre d'autant plus la main sur Hong Kong, et que la solution négociée politique qui a été trouvée au mouvement avec l'élection de députés au LegCo, au Legislative Council, issu du mouvement des parapluies, n'a finalement pas a été pérennisé, puisque ces députés ont été démis par Pékin. Donc là, si vous voulez, il y a une sorte de dépression terrible qui s'était abattue sur les Hongkongais suite à ça, avec cette idée que ils pouvaient rien revendiquer parce que toute forme de protestation allait déboucher sur une reprise en main encore plus forte de Pékin. Et il y a eu énormément de frustration depuis, y compris avec le train qui relie Canton à Pékin, le West Kowloon Rail, et les gens protestaient, mais pas tout en ayant l'idée qu'ils pouvaient pas influer sur le cours de la politique. Et là, c'est justement cette idée, on n'a plus rien à perdre. Le projet de loi de Carrie Lam sur l'extradition a été le déclencheur qui a permis l'expression de toute cette frustration va bien au-delà de la contestation contre le projet de loi, qui reprend l'idée de la démocratisation de Hong Kong, la démission du chef de l'exécutif et une véritable réforme politique à Hong Kong.
Jean-Philippe Béjart.
Donc, je crois que ce qui se passe, c'est qu'on a l'identité de Hong Kong qui s'affirme. Hong Kong est un territoire tout à fait à part dans la
guerre
de Chine, bien sûr, mais surtout c'est une communauté politique qui s'est créée depuis à peu près les années 70 et qui prend de plus en plus d'autonomie, qui est de plus en plus consciente. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis l'échec entre guillemets du mouvement des parapluies, toutes les interventions de Pékin avait réussi sans provoquer véritablement de fortes réactions à Hong Kong. Donc, les autorités ont cru que cette fois-ci, c'était fini. Or, ce qui apparaît, c'est que, pour beaucoup de gens, c'est la dernière chance. Quand ce projet d'extradition vers la Chine, ça apparaît comme la fin de l'indépendance du système judiciaire. Or, l'indépendance du système judiciaire, c'est quelque chose qui est considéré comme essentiel par l'ensemble de la population de Hong Kong. C'est véritablement la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. C'est supprimer cette indépendance judiciaire, ça voudrait dire être entièrement aux mains de la Chine. Ça voudrait dire Hong Kong sera une ville comme toutes les autres ville chinoise. Et c'est ce qui explique à ce moment. Et or, le gouvernement pensait que tout ça passerait très bien parce qu'il avait pris l'excuse d'un fait divers qui avait scandalisé la population. C'était un Hongkongais qui avait tué sa compagne à Taïwan, et donc on s'est dit, on n'a pas d'accord d'extradition avec Taïwan, il faut donc mettre cette... Et on pensait, comme c'est arrivé déjà à plusieurs reprises depuis 97, que l'opinion publique serait favorable et que donc ça passerait. Or, c'est apparu comme une terrible attaque contre l'identité même de Hong Kong, et c'est pour ça qu'on a eu cette énorme... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on voit, on parle beaucoup des jeunes qui sont à l'avant-garde de ces manifestations. Mais c'est pas seulement des jeunes, c'est l'ensemble de la population.
On va venir sur la nature du mouvement. Michel Bonin.
Je voulais simplement rappeler qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave ces dernières années, c'est le kidnapping de gens en Chine, à Hong Kong, par les services spéciaux chinois. Ça, c'est quand même quelque chose d'effrayant pour les gens de Hong Kong. C'est-à-dire que des personnes, il y a eu un homme d'affaires chinois d'ailleurs, mais qui vivait à Hong Kong, qui s'était entouré d'un tas de gardiens, de gardes, etc., dans son hôtel de luxe, et qui a quand même été kidnappé par la police chinoise et qui a disparu en Chine. Et puis surtout 5 libraires et éditeurs qui ont été kidnappés, et l'un d'eux a réussi à revenir à Hong Kong et à raconter son histoire. Donc là, ce que disait Jean-Philippe est tout à fait juste, c'est-à-dire que les gens se disent, maintenant ça deviendra la règle, c'est-à-dire que si Pékin peut dire bah, je recherche telle personne, ils n'auront plus besoin d'envoyer des espions pour venir les kidnapper et les emmener en Chine. Mmh. Ils pourront tout simplement demander à la police hongkongaise de les arrêter.
Donc une lutte pour la survie du système libéral, si je vous entends bien tous les deux, Jean-Philippe Béja et Michel Bonin, ce qui permet aussi de comprendre un peu mieux pourquoi une telle mobilisation, je le rappelle, jusqu'à 2 millions de personnes dans les rues de Hong Kong, en tout cas selon les organisateurs, c'était mi-juin, des hommes et des femmes, et vous le disiez déjà, Jean-Philippe Béja, de tous âges, même si les jeunes sont a priori les plus représentés, de tous milieux, de plusieurs nationalités aussi, on a entendu des Anglais, des Américains qui vivent à Hong Kong, descendre dans la rue. Qu'est-ce que cela dit de la nature profonde de cette contestation, Chloé Froissart?
C'est une contestation qui est unie beaucoup plus les Hongkongais et les résidents de Hong Kong que le mouvement des parapluies. Le mouvement des parapluies était avant tout un mouvement étudiantin, avec quelques professeurs d'université. Mais là, ça réunit toutes les générations.
C'est une manière de dire, nous sommes Hongkongais avant d'être chinois, ou même Hongkongais et non pas chinois.
Absolument, oui. C'est d'ailleurs un des slogans qui est brandi aujourd'hui, c'est libérer Hong Kong, qui renvoie à la demande d'indépendance de Hong Kong, qui est une demande qui est formulée depuis le mouvement des parapluies, depuis le développement de ce qu'on a appelé le mouvement localiste. Là, il y a, chez certains, après le mouvement comporte des personnes radicales et d'autres un peu moins, mais chez certains, il y a une vraie remise en cause du pouvoir, non seulement, enfin, du gouvernement non seulement de Hong Kong, mais du pouvoir de Pékin. Mmh. À travers les symboles du pouvoir. Mmh. Le Let's Go, qui a été vandalisé.
Ouais, le
Parlement local. Le bureau de liaison, qui est le bureau de représentation de la Chine à Hong Kong.
C'était le week-end dernier.
Le week-end dernier, ils ont réessayé hier, mais ils n'ont pas réussi parce qu'il y a eu une meilleure protection. Donc, si vous voulez, il y a eu même plus qu'une interpellation, mais un rejet du Parti communiste qui est extrêmement fort par les Hongkongais.
Jean-Philippe Béja.
Oui, je ne dirais pas si loin sur la revendication d'indépendance. Je crois que c'est l'affirmation d'une identité, l'affirmation de l'identité d'une communauté politique autour de ses valeurs et autour, dans une certaine mesure, de quelques institutions que sont les libertés fondamentales, la liberté de manifester.
Mais la question que vous posez, c'est de savoir comment on peut vivre cette identité au sein d'un pays grand comme la Chine, autoritaire comme la Chine.
Mais bien entendu, l'histoire, c'est... On a une formule qui est un pays, deux systèmes. Alors, on peut très bien dire, c'est l'eau et le feu, c'est l'eau et l'huile, etc. Et c'est vrai, c'est deux systèmes qui sont complètement différents. Mais c'est sur cette base qu'a été que Hong Kong a été rendu à la Chine, et la déclaration conjointe sino-britannique est déposée aux Nations Unies. La loi fondamentale qui régit Hong Kong est elle aussi reconnue par l'ensemble des pays étrangers. Donc il y a c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais il y a quand même cette idée. Alors le réalisme de l'ensemble de la population hongkongaise, je crois qu'il y a effectivement quelques personnes qui parlent d'indépendantistes. Il y a les indépendantistes, mais c'est surtout le gouvernement de Hong Kong qui a parlé des indépendantistes. Le premier qui en a parlé, c'était le chef de l'exécutif en 2014, pour essayer... Vous savez, on agite un chiffon rouge. Il y avait personne. Il n'y avait pas d'indépendantistes. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de localistes. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut continuer dans le cadre de la République populaire de Chine. Mais surtout, ils se disent aujourd'hui, c'est la dernière occasion de pouvoir défendre cette spécificité hongkongaise. Et maintenant, alors que ce soit à l'intérieur, personne, en fait, on parle très peu de est-ce qu'on doit rester dans la Chine ou pas rester dans la Chine. L'important, c'est de dire, on garde, voilà, ce qu'on veut, c'est un régime démocratique, la garantie des libertés fondamentales, une commission d'enquête sur le comportement de la police, ce qui est quelque chose de très important, car c'est le moyen, justement, de conserver le contrôle populaire sur l'ensemble des instruments de réception.
On va parler de la police et des violences aussi qui ont émaillé ces manifestations. Michel Bonin.
Un pays de système, c'est quelque chose qui est tout quelque chose d'assez original, nouveau, et qui ne peut marcher que si le gouvernement central est relativement tolérant, et le gouvernement local joue son jeu, c'est-à-dire défend plus ou moins bien les Hongkongais dans la discussion avec Pékin. Or, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir et à Hong Kong de Carrie Lam, C'est plus du tout le cas. C'est absolument pas le cas. On a un gouvernement de Hong Kong qui est visiblement une marionnette du gouvernement de Pékin. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui, là où en plus, de fait, depuis plusieurs mois, donc on voit la volonté populaire, elle est évidente. C'est très très rare d'avoir un quart de la population qui descend dans la rue de n'importe où dans le monde.
Oui, ça c'est sûr.
Donc elle est claire la population. Mais ils refusent de bouger. Et donc, si vous voulez, on est dans une situation où maintenant ce gouvernement de Hong Kong apparaît comme un gouvernement collaborateur. J'irai jusque là. Je veux dire, maintenant, à cause de tout ce mouvement, on est dans une situation où il n'y a plus de juste milieu. Il y a des collabos et des résistants. Et donc ça, c'est très très grave. C'est vraiment très très grave pour l'avenir de Hong Kong qui est complètement déchiré. Vous avez des gens qui ne bougeaient jamais autrefois, par exemple des hauts fonctionnaires qui écrivent une lettre pour critiquer leur propre gouvernement. Mais c'est quelque chose qui est impensable pour dans l'histoire de Hong Kong. Ça n'est jamais arrivé. Et tout est comme ça. Vous avez des juges qui font des manifestations. C'est tout à fait. Je veux dire la situation à Hong Kong est très grave parce que le gouvernement, par son attitude absurde et qui est, à mon avis, imposée par le gouvernement Xi Jinping, pousse les gens à bout.
Il faut rappeler qu'Ari Lam, l'actuel chef de l'exécutif hongkongais, a été choisi, validé par Pékin avant d'être élu.
C'est pour ça que je suis d'accord avec Chloé, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le mouvement de 2014 et maintenant. C'est-à-dire, c'est parce qu'on n'a pas réglé le problème politique, c'est parce que en fait le gouvernement de Hong Kong est uniquement choisi par Pékin et ne représente donc pas Hong Kong, qu'il y a un problème. Les gens se disent, mais elle veut simplement se faire bien voir par Pékin et elle ne nous défend pas.
Et c'est pour ça aussi que cette crise est aussi forte et aussi charnière dans l'histoire de Hong Kong et des relations entre Hong Kong et la Chine. La Chine, vous parliez, Michel Bonin, de cette déchirure au sein de la société hongkongaise. Chloé Froissart, est-ce que ça explique les violences qu'on a pu voir ces dernières semaines, violences de certains manifestants? Vous le rappeliez tout à l'heure contre les symbole de l'influence, voire de l'emprise de Pékin, le Parlement local, le bureau de liaison. Mais on a vu aussi des violences de la police, ça ce qui était assez, assez rare. Et puis les violences aussi le week-end dernier, il y a 8 jours, de triades, de membres de triades, de mafias chinoises. Est-ce que ça c'est nouveau et qu'est-ce que ça dit ces violences?
Absolument, c'est un élément tout à fait nouveau par rapport au mouvement de 2014, des parapluies. Cette violence-là qui est partagée, qui est de part et d'autre, du côté à la fois de la police et des manifestants, mais qui est là parce qui témoigne du fait que les Hongkongais pensent qu'il n'y a plus de dialogue possible. Ce qui a depuis le mouvement des parapluies, il y a eu une érosion continue de la confiance entre les Hongkongais, la police et les institutions hongkongaises. Et il y avait un graffiti sur l'une des colonnes du Legco qui disait, mais c'est s'adressant apparemment à Carrie Lam en disant, mais c'est vous qui nous avez appris que des manifestations pacifiques n'étaient pas efficaces. Donc en gros, c'est parce que vous refusez le dialogue, on a 1 million, 2 millions de personnes dans la rue, vous réagissez pas, que c'est vous qui nous poussez à cette violence-là. C'est le gouvernement qui pousse la violence. Après, le problème de la violence, c'est que c'est évidemment le talon d'Achille du mouvement, et c'est évidemment là ce qui va permettre à Pékin de reprendre
l'un des leviers peut-être.
Pour reprendre la main sur le mouvement.
Voilà. Jean-Philippe Béja et Michel Bonin.
Oui, alors,
sur ce problème de la violence.
Sur la question de la violence. D'abord, soyons clairs. Où est la violence? Quelle est la violence? De quelle violence s'agit-il? Il s'agit essentiellement d'une violence symbolique. Des gens sont rentrés dans le Legco et ont tagué le Legco.
Le
Parlement local. Ils ont mis de la peinture noire sur l'emblème de la République populaire de Chine. Mais il n'y a pas eu... On sort des gilets jaunes, enfin, soyons sérieux. Jamais les manifestants ne sont allés casser une vitrine. Jamais ils n'ont attaqué la police, ils n'ont fait que se défendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, de nouveau, un comportement de la police qui est extraordinaire pour Hong Kong, parce qu'on n'avait jamais vu. Jusqu'à maintenant, on s'était plaint de 87 grenades lacrymogènes qui avaient été lancées en 2014. C'est ce qui avait scandalisé la population. Là, aujourd'hui, on ne cesse de tirer des grenades lacrymogènes, des grenades au poivre, des balles de caoutchouc. Je suis pas en train de dire qu'on a une police qui est une police fasciste, etc. Mais elle est beaucoup plus violente qu'elle n'était jusqu'à maintenant. Et donc cette violence, évidemment, elle a été en même temps poussée par. On en parle sans arrêt. Pékin ne parle que de ça. Le gouvernement ne parle que de ça. Pour revenir un petit peu sur le gouvernement de Hong Kong, c'est vrai qu'il y a. Aussi sur la violence des triades. C'est pas la première fois. Au moment du mouvement des parapluies à Bangkok, il y avait eu une attaque de ces triades. Alors, les triades, il faut voir ce que c'est. Oui. C'est des gens qui sont des hommes de main qui se vendent aux plus offrants. Hein. Et donc, là, en l'occurrence, on sait qui peut offrir. Alors, je ne dis pas que ce sont des agents du gouvernement de Pékin. Absolument pas. Je n'ai aucune preuve. Mais je pense que, tout à fait par hasard, ça aide un peu le gouvernement. Pour ce qui est du gouvernement de Hong Kong, c'est vrai qu'il y a un manque total de confiance, mais je crois qu'il faut voir, il y a eu aujourd'hui la première conférence de presse.
On va l'écouter.
Du mouvement, du bureau de Hong Kong, des affaires de Hong Kong et Macao à Pékin. Ça n'est jamais arrivé depuis 97. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Pékin ne veut plus, même plus, jouer la comédie d'un pays de système. C'est-à-dire que Carrie Lam ne s'est pas exprimé depuis le 9 juillet. Je ne peux pas croire que c'est elle qui a décidé de ne pas s'exprimer et de ne pas répondre alors qu'il y a de plus en plus parce que ce que jouait le gouvernement, c'était le pourrissement du pouvoir, comme ça s'était passé avec les parapluies. Au bout de 79 jours, les gens en avaient marre parce que la vie était impossible. Là, ce qui se passe très bizarrement, c'est que malgré toute cette exaltation par la presse de la violence, enfin, on n'arrête pas de parler de la violence partout, et malgré ça, la population soutient le mouvement et n'a pas rompu avec les soi-disant manifestants violents. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement étonnant et ça complique la stratégie du gouvernement de Hong Kong et du gouvernement de Pékin, car le pourrissement, ça marche pas en ce moment.
Michel Bonin.
Et exactement. Je pense que qu'il y a certainement eu une volonté de la part de la police de Hong Kong et probablement évidemment du gouvernement et ça peut monter évidemment beaucoup plus haut
jusqu'à
Pékin de laisser les jeunes entraient au conseil législatif. C'était évident. Ils auraient très bien pu les empêcher de le faire et même d'approcher du bureau de liaison la semaine dernière. Mais en fait, cette stratégie qui était une stratégie justement de dénigrement du mouvement en montrant qu'il était violent, radical, etc., n'a pas marché. La population soutient les jeunes d'une façon étonnante, beaucoup plus que pendant le mouvement de 2014. Et donc, c'est pourquoi? Eh bien, parce que les gens se rendent bien compte que d'abord, ces jeunes, ils sont pas si violents que ça. Je suis d'accord avec Jean-Philippe. Et c'est uniquement de la violence symbolique. Et quand ils sont entrés au conseil législatif, ils avaient soif, ils ont pris des bouteilles dans un distributeur automatique et ils ont payé. Ils ont laissé de l'argent. Donc voilà, c'est ça. C'est pas
il y a quand même eu des bureaux de députés qui ont été vandalisés, tombes de parents de députés pro-Pékin profanés. Enfin bon, c'est pas la majorité du mouvement aussi. Mais non, là où c'est tout à fait juste, c'est qu'il y a cette volonté mais ça c'est typique des régimes autoritaires. C'est d'ailleurs comme ça que la révolution de 2011 en Égypte a été matée. C'est la police, on n'y a plus, elle n'intervient plus. Et ça, c'est l'excuse pour qu'on dise « il faut maintenir l'ordre social et on fait intervenir l'armée ».
Oui, mais justement, je veux dire...
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
C'est animé.
Voilà, je vous ai coupé la parole, Michel Bonin. Vous allez l'avoir dans quelques instants, directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes l'un de nos trois invités. La révolte à Hong Kong fait-elle trembler la Chine? C'est la question qu'on pose dans le grain à moudre d'été ce soir. Pour débattre avec vous, on l'a entendu, Chloé Froissart, maîtresse de conférence en sciences politiques à Rennes 2, et Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS. Je vous redonne la parole, donc, Michel Bonin. Vous vouliez réagir à ce que vient de dire Chloé Froissart.
Oui, bon, je voulais dire que la violence est quand même très, très limitée de la part de ces jeunes. Et surtout, ils ont eu cette idée géniale d'écrire à plusieurs endroits c'est vous qui nous avez appris que les manifestations pacifiques ne servent à rien. Et les gens sont entièrement d'accord. Le grand tournant de ce mouvement, c'est le 12 juin, quand après une manifestation d'un million de personnes le 9 juin, Carrie Lam décide de continuer à vouloir faire passer la loi au Conseil législatif
législatif. Alors là, le fait que les jeunes aient bloqué l'entrée du Conseil législatif a empêché ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été interviewées, des gens d'un certain âge, et qui ont dit, eh ben, on est reconnaissant aux jeunes d'avoir fait ça, parce que sinon, on l'aurait cette loi, et on serait fichu.
Rapidement sur la loi, justement, je le disais en introduction, cette loi est dite morte, c'est le mot choisi par Carrie Lam, mais c'est pas, elle n'est pas retirée cette loi ou abandonnée. Est-ce que là il faut y voir malice?
C'est une. Jean-Philippe Bégin. Je crois que c'est une question. Alors bien sûr, l'idée de Pékin, c'est que un jour il y aura le plus tôt possible, on aura l'article 23 et on aura aussi cette loi d'extradition.
Mais
en réalité. Ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé avec l'article 23, c'est qu'il a été lui aussi suspendu et on attend toujours de le remettre. Et elle devait remettre. L'un des engagements de Carrie Lam en arrivant au pouvoir en 2017, c'était justement de créer les conditions pour que cet article contre la subversion, le fameux article 23, qui est plus grave encore que la loi d'extradition, devait être qu'elle le ferait passer. Elle ne l'a pas fait passer, et au contraire, et si vous voulez, l'article sur l'extradition était ce qui permettrait de créer ces conditions. Or, il est maintenant mort. Mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, qu'on peut toujours le ressusciter.
Oui, c'est ça, il peut être ressuscité.
Parce que mort, comme disait très justement un observateur, c'est pas un concept juridique.
Non. Hein,
on n'est pas mort. On peut soit supprimer, soit suspendre. Suspendre, ça veut dire qu'on peut pas le remettre cette année, mais ça veut pas dire, théoriquement, qu'on peut pas le remettre. Je vais vous dire, je crois très franchement que... C'est pas demain la veille qu'elle va le remettre.
Alors, vous parliez, Jean-Philippe Béja, il y a quelques instants, de la réaction de, en quelque sorte, du bureau de liaison, donc de l'organe central à Pékin qui s'occupe des relations avec Hong Kong et Macao. Réaction rarissime, c'est même la première fois, dites-vous, que cet organe réagit. Il faut dire qu'avant, il y a aussi eu très peu de réactions officielles à Pékin. Hein. Quelques mots, je crois, d'un porte-parole du gouvernement, mais rien de plus. Écoutez donc un extrait de cette conférence de presse qui a été donnée en milieu de journée.
Les événements récents à Hong Kong, et en particulier les actes de violence commis par un petit nombre de militants radicaux, ont sérieusement atteint la prospérité et la stabilité de Hong Kong, sérieusement remis en question l'état de droit et l'ordre public, et sérieusement menacé la vie et la sécurité des résidents de Hong Kong. Ils ont atteint les limites du principe un pays, deux systèmes, et ça ne peut pas être toléré.
Qu'est-ce que vous comprenez dans ce qui vient d'être dit, Jean-Philippe Bégin?
Classique. Je veux dire, c'est la position classique du gouvernement chinois. Hong Kong est une ville économique. Ce qui est important, c'est de sa prospérité. Donc, voilà, on a
attaqué... C'est peut-être ce qui va la protéger, d'ailleurs.
On va la protéger, etc.
On en parlera.
Or, on va voir qu'aujourd'hui, si ça continue, ça va attaquer la prospérité de Hong Kong. Il faut... on a attaqué la propriété. Donc, ça, c'est l'idée. Hong Kong, c'est une ville économique. Et puis, après, c'est... la petite minorité d'éléments radicaux qui ne représentent pas du tout la population et qu'il faut isoler, etc. Mais ce qui est très intéressant dans cette conférence de presse, c'est qu'il insiste sur le rôle de la police. Tout le temps, la police. Il affirme son soutien au gouvernement et il dit, mais surtout, la police, les familles des policiers, tout repose sur la police. Or, c'est justement le problème. C'est que, le problème pour Pékin, c'est que, évidemment, ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer l'armée. Donc, ils sont actuellement, en réalité, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer l'armée pour réprimer, et en même temps, ils ne peuvent pas laisser le désordre, comme ils disent, ni satisfaire les revendications démocratiques de la population. Donc voilà le dilemme.
Chloé Froissart, puis Michel Bonin.
Moi, je crois que c'est tout à fait plausible que Pékin envoie l'armée. On est évidemment là, dans un ultime essai de trouver une solution locale à Hong Kong. Donc, ce qui a été dit, c'est en gros, la police, on vous soutient et rétablissez l'ordre par tous les moyens, car il a annoncé hier qu'elle allait désormais utiliser des canons à eau pour venir à bout des manifestants. Mais si cette dernière solution ne marche pas, je ne vois, enfin, ça me paraît tout à fait probable, possible, que le gouvernement hongkongais fasse appel à Pékin, en vertu à la fois de la loi sur la garnison et sur de la Basic Law, qui stipule que Pékin peut intervenir à la demande du gouvernement de Hong Kong pour maintenir l'ordre social. Il y a actuellement 6000 soldats de l'armée populaire de libération stationnés à Hong Kong, un geste de Carrie Lam, un mot de Pékin, et ils peuvent intervenir. Alors évidemment, ce ne sera pas une intervention sanglante comme le 4 juin.
89 à Tiananmen.
Voilà. Mm-hmm. Mais ça sera symboliquement une manière de rappeler que Pékin maintient son autorité sur Hong Kong et que celle-ci ne peut pas être mise en cause. Je crois que, franchement, Pékin n'a rien à perdre là-dedans.
Bon, Jean-Philippe Béja n'est pas d'accord, mais on va d'abord donner la parole à Michel Bonin.
Oui, bah, moi non plus, je suis pas d'accord. bien sûr, on ne peut pas exclure totalement, mais je pense qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter ça, parce que ça serait quand même symboliquement...
Oui, Tiananmen, c'était il y a 30 ans.
Hein. C'est la mort de Hong Kong. Mmh. Personne... Hong Kong, donc, c'est un endroit où énormément de multinationales ou de sociétés internationales, de sociétés américaines, chinoises d'ailleurs, et puis françaises, etc., ont leurs des sièges sociaux. Et si l'armée réprime directement et prend le pouvoir à Hong Kong, c'est évident que tout le monde va s'en aller. Donc, je ne pense pas du tout que Pékin veuille ça.
Attention.
Mais ce que je veux dire, ce qui est vrai, c'est que le problème reste de savoir comment sortir de la situation politique. Et pour l'instant, la seule sortie de la situation politique, la seule idée politique qui existe, c'est l'utilisation des canons à eau.
Un mot de Jean-Philippe Béja avant de vous donner la parole, Chloé Froissart.
Je crois vraiment que c'est totalement... D'abord parce que Pékin a intérêt à ce que Hong Kong reste Hong Kong. On est en pleine période de guerre commerciale. Actuellement, Hong Kong a le statut de territoire autonome. C'est-à-dire que vous pouvez faire passer du commerce avec tous les pays en passant par Hong Kong, ce qui s'est passé pendant les années 50 et 60.
Est-ce qu'il ne peut pas se faire d'autres ports chinois ?
Non, car c'est un territoire douanier autonome. Donc, pour commercer avec l'Occident, vous avez besoin de Hong Kong. D'autre part, les dirigeants chinois ont besoin de Hong Kong pour blanchir leur argent. Il y a beaucoup d'argent de la corruption qui part par Hong Kong, qui passe par Hong Kong. Ça, c'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Et d'autre part, si l'armée intervenait, et qu'est-ce qui se passerait après ? C'est facile d'intervenir. Vous intervenez, mais après, qui va gouverner Hong Kong ? L'armée ? Alors, Pékin veut, par tous les moyens, renforcer son contrôle sur Hong Kong. Essayer d'empêcher qu'à Hong Kong, il y ait une véritable opposition au gouvernement et à Pékin. Mais, en même temps, elle ne peut pas se permettre de ne plus avoir un Hong Kong, que Hong Kong devienne un Shanghai, qui sera en plus pire que Shanghai, parce que après la répression par l'armée, on n'aurait plus du tout de... Vous auriez toute la population contre.
Chloé Froissart.
C'est, à mon avis, justement, au nom de la préservation de l'état de droit et de l'exceptionnalité de Hong Kong, que l'armée pourrait intervenir. Parce que c'est exactement le discours de Pékin qui en appelle au respect de la loi et la protection de l'état de droit et de l'ordre social que, justement, l'armée pourrait intervenir. Pékin fait également valoir, ce qui n'est pas tout à fait faux, que déjà certaines personnes cherchent à quitter Hong Kong, que certains milieux d'affaires et que certains commerçants font valoir le manque à gagner, que la question de la sécurité est également extrêmement importante pour les Hongkongais eux-mêmes. Et à mon avis, c'est là que Pékin pourrait tout à fait légitimer une répression sévère.
On a compris, vous n'êtes pas d'accord sur cette possible, éventuelle intervention de l'armée. Mais pour avancer encore un peu dans notre sujet, qu'est-ce que cette contestation dit de l'état de la Chine aujourd'hui, de l'état politique, Jean-Philippe Béja?
Ça, je crois que c'est effectivement très important. L'inquiétude de Pékin, le fait qu'on dit c'est toujours les étrangers, etc. Mais l'inquiétude devant cette agitation de Hong Kong, ça prouve une chose, c'est l'extrême insécurité du régime de Xi Jinping.
Jamais un président chinois n'a été aussi puissant depuis Mao, dit-on.
Mao n'avait pas besoin d'être président de tout.
Hein. Ouais.
Mao, il était Mao. Et ça suffisait. Quand il est revenu au pouvoir, il n'était plus président de la République.
Voilà. Bon, revenons aujourd'hui.
Le fait est que ça prouve l'extrême insécurité, la peur de la contagion. C'est quelque chose. Dès que quelqu'un parle de Hong Kong sur les réseaux sociaux en Chine, hop, c'est enlevé. Il y a une grande inquiétude. On se dit, si jamais ça commence comme ça à Hong Kong, est-ce que ça risque pas aussi de se de s'étendre à la Chine. Le Guangdong, vous savez, la province qui est limitrophe de Shenzhen, qui est ce grand hub maintenant, c'est qui est devenu presque plus important que Hong Kong. Il y a 20 millions d'habitants à Shenzhen, mais Shenzhen et Hong Kong, il y a une osmose absolue. Les gens qui sont à Shenzhen, ils savent tous ce qui se passe à Hong Kong. Et l'insatisfaction, alors je suis pas en train de dire que la Chine est au bord de la révolution, simplement ce que je veux dire, c'est que Xi Jinping a extrêmement peur qu'il y ait un quelconque mouvement social qui puisse réussir quelque part sur le territoire chinois.
Il nous reste une petite dizaine de minutes. Michel Bonin.
Oui, je pense qu'effectivement, derrière tout ça, moi je vois vraiment Xi Jinping. Hein. C'est clair.
C'est un échec pour lui ?
Non, pour lui, tant qu'il est au pouvoir, il n'y a pas d'échec. Hein, donc, c'est la logique du Parti communiste. C'est-à-dire, tant qu'on est au pouvoir, c'est bien. Hein, donc, l'objectif, c'est de rester au pouvoir.
Est-ce que ça fragilise son pouvoir?
Ça peut le fragiliser dans les combats internes au plus haut niveau. Hein, mais ça, malheureusement, on sait très peu de choses là-dessus. Je pense que la guerre commerciale avec les États-Unis, c'est aussi quelque chose qui est pas très bon pour lui, parce que il représente le jusqu'au boutisme, l'absence de compromis absolu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de compromis et qui ne fera jamais de compromis parce que, justement, il est totalement paranoïaque. C'est-à-dire qu'il pense que si on lâche quelque chose, c'est fini. Et donc, il ne lâchera pas. Et donc, effectivement, on sait pas. Mais il va quand même trouver il peut faire revenir un peu en arrière pendant quelques temps.
Ça a l'air compliqué,
etc.
quand même.
Oui, mais il faut comprendre qu'on est face à un mur impérial contre lequel il est difficile de lutter. Alors, on va voir comment les choses évoluent. C'est très très difficile, on est dans une véritable impasse. Mais je pense qu'ils vont essayer de faire peur aux gens, de faire peur. C'était très clair là dans le truc, dans la déclaration du bureau de liaison de Pékin, là, non,
du bureau des affaires de Hong Kong.
Il faut punir ces gens-là. Mmh. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait ça avec les gens de 2014. Hein. Mmh. Ils ont puni des gens, ils les ont mis en prison, et je pense que les prisons vont se remplir.
Chloé Froissart.
Moi, je pense que ce qui se passe à Hong Kong, c'est vraiment, en quelque sorte, le symptôme de l'état actuel de la Chine, qui est dans un état de crise permanente. Xi Jinping a... En quelque sorte, boucler toutes les soupapes de sécurité, fermer toutes les soupapes de sécurité, toutes les possibilités de dialogue. Il est dans un rapport de force permanent avec la population. Le mécontentement sourd et on est véritablement dans un état de cocotte-minute. Et Hong Kong, c'est le premier à exploser. Mais il y a le Xinjiang, il y a les problèmes avec les chrétiens, il y a plein d'autres choses. Et Hong Kong, parce que les Hongkongais ont une culture politique très différente des Chinois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette confiance qu'ont les Chinois envers leur gouvernement. Il y a un soupçon, une capacité d'esprit critique qui est constitutif d'un esprit démocratique que les Hongkongais ont.
Que les
Chinois n'ont pas. Donc Hong Kong, si vous voulez, c'est l'avant-garde de la contestation. Mais elle représente, si vous voulez, un état de cocotte-minute qui est commun à toute la Chine. Et c'est aussi pour ces raisons que je pense qu'une intervention militaire n'est pas à écarter. Parce que, justement, Xi Jinping n'est pas un compromis. Faire peur est extrêmement important. Sa peur de la contagion.
Mais justement,
Hong Kong est très fort.
Je voudrais qu'on y passe quelques minutes sur cette peur de la contagion que vous évoquiez aussi, Jean-Philippe Béjal, il y a quelques instants. Est-ce que d'autres villes, type, alors vous parliez de Shenzhen, hein, moi je le prononce Shenzhen, vous prononciez-vous avec un accent impeccable, ou Shanghai, ou Taïwan, est-ce que la contestation à Hong Kong peut faire des petits?
Écoutez, il y a quand même beaucoup, récemment, à Wuhan, il y a eu une manifestation de 10 000 personnes pour des questions de pollution. Alors, il y a tous les jours en Chine des mouvements sociaux, alors qu'ils ne sont pas de grande ampleur, qui ne se joignent pas entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont très isolés, mais il y a des grèves, il y a des mouvements sociaux, il y a des manifestations. Donc, ces choses existent. Il y a une grande insatisfaction dans la population urbaine en même temps, mais Évidemment, il est absolument impossible, après l'offensive de Xi Jinping contre la société civile, il est extrêmement difficile d'organiser une opposition. Ça, je pense que c'est impossible. Mais que tout le monde regarde vers Hong Kong aujourd'hui, beaucoup plus d'ailleurs peut-être qu'au moment des parapluies ou au moment du mouvement des parapluies, on pensait qu'ils étaient un peu ingrats, qu'ils étaient déjà mieux traités que les autres et qu'ils avaient des exigences un peu... Cette fois-ci, on voit qu'ils sont courageux, on voit qu'ils résistent, etc. Donc c'est quelque chose d'important. Juste encore un mot pour...
Rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'Europe et des États-Unis.
Juste un mot sur l'armée. Ouais. Pendant la conférence de presse, le représentant du bureau de Hong Kong et Macao n'a pas répondu à la question de l'armée et n'a pas réitéré ce qu'a dit le représentant du ministère de la Défense en disant il y a l'article 14. Il n'a pas fait référence à l'article 14 de la BCE.
Il nous reste 3 minutes des réponses courtes, s'il vous plaît.
Oui, alors juste Taïwan, je crois qu'il faut en parler. Allez-y. C'est quand même très important. Mmh. L'impact sur Taïwan est énorme. Mmh. Et Taïwan devient de plus en plus le lieu où les gens de Hong Kong vont aller demander l'asile politique. Mmh. On en est là. On en est là. Et il y a déjà plusieurs personnes qui sont allées demander l'asile politique à Taïwan. Mmh. Donc, ça va jouer dans les élections à Taïwan, c'est évident, et contre les intérêts de Pékin. Mmh. Donc voilà, c'est quelque chose qui bloque un peu Xi Jinping dans sa volonté de contrôle absolu.
Bon, il nous reste vraiment peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot des réactions à l'étranger. Les États-Unis, on peut pas dire que Donald Trump est particulièrement critiqué l'attitude de la Chine. Il disait que il y a quelques jours, en début de semaine dernière, que Xi Jinping s'était comporté de manière responsable à Hong Kong. On peut pas dire non plus que le discours de l'ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni, soit particulièrement critique. Chloé Froissart, plus largement, il y a aussi le discours de l'Union européenne et même le discours français, la France, qu'on a quasiment, voire pas du tout entendu sur ce sujet.
Oui, absolument. L'Union européenne et la France en particulier sont trop, à mon avis, dans leurs propres problèmes pour s'occuper de Hong Kong. Et la Chine est un partenaire stratégique trop important. On l'a bien vu, enfin, depuis...
Donc les Occidentaux ne peuvent rien faire dans cette crise à Hong Kong.
Ou ne veulent, c'est pas qu'ils ne peuvent, je pense que beaucoup ne veulent rien faire. Mmh. La première chose que s'est empressée de dire Boris Johnson quand il a accédé au pouvoir, c'est que la Chine était une amie et que les investissements chinois étaient bienvenus en Grande-Bretagne. Il y a très peu de possibilités, enfin à part des condamnations verbales symboliques, pour qu'il y ait des véritables mesures qui soient de rétorsion qui soient prises contre la Chine dans ce contexte.
Il nous reste une minute.
Donc, la possibilité pour les Occidentaux, c'est évidemment le problème de ce Hong Kong, territoire douanier autonome. Est-ce qu'on le reconnaît ou pas? Or, il y a eu, dès le début du mouvement, au Congrès des États-Unis, un certain nombre de voix qui se sont élevées pour remettre en question le Hong Kong Policy Act qui reconnaît la différence de traitement de la Chine et de Hong Kong. Pour Xi Jinping, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et alors, évidemment, c'est la bombe atomique, c'est la chose la plus grave. Et donc, les Occidentaux ne le mettront pas en œuvre, mais c'est une menace qui est extrêmement efficace.
Très rapidement,
exactement. Comme tu viens de le dire, les États-Unis, c'est très peu probable qu'ils le mettent en œuvre. Très très peu probable, parce qu'ils apparaîtraient comme des bourreaux autant que Xi Jinping, et les Hongkongais seraient autant victimes que la Chine. Donc ils ne le feront pas.
Michel Bonin,
je suis d'accord avec Jean-Philippe là-dessus, et je pense qu'il y a aussi les hommes d'affaires étrangers à Hong Kong qui sont très importants. La Chambre de commerce américaine vient de faire une déclaration, et je pense qu'il faut que toutes les chambres de commerce s'y mettent. Oui.
Merci beaucoup, merci à tous les trois. Débat animé, débat passionnant ce soir autour de la situation critique à Hong Kong. Michel Bonin, directeur d'études à l'EHESS, professeur associé à l'Université chinoise de Hong Kong. Chloé Froissart, merci, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Rennes 2. Et Jean-Philippe Béja, merci aussi, sinologue, politologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Grand merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Stéphanie Villeneuve, Léa Capuano, Margot Leridon, Aliette Ovine, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation ce soir, Alexandre Fougeron. Mise en onde, Nasser Moussaoui. Pour réécouter l'émission, deux possibilités, l'application Radio France ou le site franceculture.fr.